France Culture.
C'est l'heure du journal de la rédaction, présenté ce soir par Antoine Jessin. Bonsoir.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Les alliés de l'Ukraine mettent de nouveau la pression sur la Russie. Européens et Américains d'accord pour un cessez-le-feu sans condition de 30 jours en Ukraine. La Russie n'a pas encore répondu. Si c'est non, les Occidentaux promettent de nouvelles sanctions massives. La désescalade temporaire au moins entre l'Inde et le Pakistan. Les deux pays acceptent un cessez-le-feu total et immédiat, annonce Donald Trump. Depuis mercredi, les deux voisins s'envoyaient des missiles, deux semaines après un attentat terroriste au Cachemire indien. Et puis en France, la mort d'une figure de l'édition, Hervé de la Martinière, disparaît à l'âge de 78 ans, connu pour avoir notamment édité La Terre vue du ciel, son portrait à la fin de ce journal. Discussion fructueuse aujourd'hui entre le président français, les premiers ministres britanniques et polonais et le chancelier allemand réuni à Kiev par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Avec le soutien de Donald Trump, il propose ce soir une trêve de 30 jours en Ukraine à partir de lundi prochain. Bonsoir Maxence Lambrec.
Bonsoir.
Envoyé spécial de France Culture à Kiev, Maxence, cette pression de l'Europe et des États-Unis marque une nouvelle phase dans une guerre qui dure depuis plus de 3 ans désormais.
En effet, un ultimatum formulé dans toutes les langues cet après-midi dans les jardins du palais présidentiel ukrainien. 5 pupitres, 5 drapeaux, 5 hommes déterminés à faire vaciller Vladimir Poutine grâce au soutien de Donald Trump avec qui ils ont échangé à l'issue de leur réunion.
En cas de violation de ce cessez-le-feu, nous sommes agréés que des sanctions massives seraient préparées et coordonnées entre Européens et Américains.
C'est la nouveauté de ce sommet, l'implication des États-Unis grâce à l'accord signé sur les minerais, grâce au tête-à-tête Trump-Zelensky à Rome il y a 15 jours lors des funérailles du pape François et grâce à l'impatience du président américain. Avant même cette conférence de presse, Moscou a posé une condition au cessez-le-feu, la fin des livraisons d'armes occidentales. Une manœuvre de plus s'agace les Européens. Volodymyr Zelensky, t-shirt et veste noire, ne cache pas son scepticisme.
Nous ne nous faisons aucune illusion. Il y aura des violations du cessez-le-feu. Mais c'est un pas très important.
Cela fait tout juste 2 mois qu'il propose cette trêve. Elle devient un impératif du camp occidental qui, pour l'instant, ne révèle rien des sanctions imaginées, évoquant simplement le pétrole et le système bancaire russe.
Maxence Lambrec, envoyé spécial de France Culture à Kiev avec Jérémy Tuile pour les moyens techniques. Cette question désormais est donc sur toutes les lèvres. Vladimir Poutine va-t-il accepter cette trêve? Lui qui, pour l'instant, n'a déclaré de cessez-le-feu que de façon unilatérale pour le week-end de Pâques, par exemple. Le maître du Kremlin risque de jouer la montre, affirme Michel Duclos, conseiller spécial géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne, auteur de « Guerre en Ukraine et Nouvel Ordre du Monde » aux éditions de l'Observatoire.
Les messages qui sont adressés en ce moment par les 4 dirigeants européens, plus ceux qui participent par différents autres moyens à la réunion, sont des messages théoriquement adressé au président Poutine, mais en pratique, surtout aux Ukrainiens, au reste du monde et surtout à Donald Trump. Et donc, c'est une manœuvre qui est en train de se mettre en place, qui ne va pas donner des résultats dans l'immédiat, mais dont on peut espérer quand même que maintenant, on encercle à nouveau Poutine. Toute la stratégie de Poutine, ça a été de ne jamais dire non à Trump, mais de dire oui, mais il essaie de maintenir une position de refus de toute négociation, mais en maintenant le contact et en essayant d'ailleurs d'élargir la négociation à d'autres sujets que l'Ukraine, en faisant miroiter des opportunités économiques fantastiques si les sanctions sont levées, en faisant miroiter la possibilité de collaborer sur la gestion des crises, tout cela étant un rideau de fumée pour ne pas céder sur l'Ukraine. Je pense que ce qui est en train de se passer là sous mes yeux, c'est que les Européens apparemment jusqu'ici Monsieur Trump sont en train de crever ses apparences et de montrer la réalité qui est que pour l'instant les Russes se refusent toujours à ce qui serait quand même le bon sens et l'humanité, c'est d'accepter un cessez-le-feu prolongé.
Michel Duclos, conseiller spécial géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne, il répondait à Ersin Levovitz. L'ONU espère que le cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan aboutira à une paix durable. Soulagement ce soir de la communauté internationale après plusieurs jours d'affrontements, de bombardements entre l'Inde et le Pakistan. Le président américain Donald Trump a annoncé aujourd'hui en effet que les deux voisins ont accepté une trêve totale et immédiate, une désescalade bienvenue alors que la pression montait de jour en jour entre les deux puissances nucléaires. Explication du correspondant de France Culture dans la région, Com Bastin.
Aujourd'hui encore, la tension était à son comble, alors que le porte-parole de l'armée pakistanaise lançait une large opération de représailles contre l'Inde. Cette riposte faisait suite à une nuit de combats acharnés. L'Inde avait visé et endommagé plusieurs bases aériennes du Pakistan, qui avait lui lancé des attaques de drones dans 26 zones frontalières. Les vérifications indépendantes sur les frappes entre les deux pays étaient impossibles, les fake news pullulaient, mais l'idée que l'on se dirigeait vers une guerre entre puissances nucléaires faisait son chemin. D'autant que les appels à la retenue de la communauté internationale étaient restés sans effet. On connaît peu de détails sur la façon dont Donald Trump et les deux pays sont parvenus à ce cessez-le-feu, mais il a été confirmé par leurs gouvernements respectifs. Des deux côtés de la frontière du Cachemire, disputée entre l'Inde et le Pakistan, et où de violents combats avaient lieu, c'est le soulagement, notamment pour les civils pris entre les feux. Reste le point de discorde à l'origine du conflit, l'attentat au Cachemire indien qui a tué 26 touristes et que New Delhi attribue à Islamabad, qui nie de son côté. Pour durer, le cessez-le-feu devra permettre un mécanisme d'enquête sur cette tuerie acceptée des deux capitales.
Comme Bastin. Retour à la normale en Catalogne. Les 150 000 personnes qui devaient se confiner chez elles depuis ce matin ont pu sortir à la mi-journée. Un nuage toxique leur faisait courir un risque. Nuage provoqué par l'incendie d'un dépôt industriel qui stocke des produits pour piscine et notamment du chlore. Il n'y a pas de blessés. Le feu est éteint. Et si les détenus français bénéficiaient d'une réduction de peine exceptionnelle? C'est ce que recommande un rapport rédigé par des professionnels du secteur, des magistrats, directeurs de prison ou encore avocats. Un rapport commandé par le ministère de la Justice et remis au ministre Gérald Darmanin. Les auteurs estiment que la surpopulation carcérale exige cette réduction de peine exceptionnelle. Reste, précise le rapport, à déterminer les personnes exclues de cette mesure en fonction, par exemple, de la nature de leur condamnation. Au 1er avril, la densité carcérale a atteint un nouveau record, 133%, presque 83 000 prisonniers en France pour seulement 62 000 places. C'était une figure incontournable du monde de l'édition. On l'apprend aujourd'hui, Hervé de la Martinière est décédé avant-hier de la maladie de Parkinson. Il avait 78 ans, sans diplôme ni entrée. Il débute sa carrière chez Hachette dans les années 70, avant de passer chez Nathan, puis devient directeur des éditions du Chêne. Tout ça avant de créer en 1992 les éditions de La Martinière. Bonsoir Mathilde Cario.
Bonsoir à tous.
La maison La Martinière que l'on connaît surtout pour les éditions de beaux livres et notamment son plus grand succès, La Terre vue du ciel de Yann Arthus-Bertrand.
Oui, un pari risqué et un coup de maître pour ceux qui étaient à l'époque en 99. Une petite maison d'édition, Yann Arthus-Bertrand se souvient de l'enthousiasme et du soutien de celui qu'il considère comme l'un de ses plus proches amis.
La Terre du ciel était un projet compliqué, lourd, où je m'étais endetté, j'avais hypothéqué ma maison, et il m'a dit à vous, Yann, écoute, c'est le livre de ta vie, on va faire le format que tu veux et le prix que tu veux. Alors, c'était génial pour un photographe d'entendre ça. Un jour, il m'appelle, il me dit, Yann, écoute, le livre, on en a imprimé 35 000 et on va jamais les vendre. Est-ce qu'on peut baisser le prix, s'il te plaît? J'ai dit, la seule condition, c'est que si jamais le livre marche, on garde ce prix bas. Il m'a dit, OK. Et bien sûr, on en a vendu des millions dans le monde, donc c'était extraordinaire.
3,5 millions d'exemplaires, effectivement, c'est un succès planétaire qui propulse Hervé de la Martinière dans une toute autre dimension. Quelques années plus tard, en 2004, il rachète Le Seuil. Et là, il faut dire que la rencontre avec le petit monde de Saint-Germain-des-Prés est difficile, raconte Olivier Bétourné, alors PDG du Seuil.
Je dirais que c'était un outsider. Oui, c'est quelqu'un qui n'était pas dans le jeu. Pour le meilleur, parce que ça le tenait à l'écart de toutes les turpitudes, les mondanités de la sphère éditoriale que vous devinez. Mais en même temps, du coup, il n'y avait pas les codes. Et il a commis notamment quelques impairs, notamment auprès des libraires, qui ne lui ont pas été pardonnés.
Pour autant, la collaboration se passe bien. Le groupe occupe désormais une place incontournable dans le paysage de l'édition. Et très important, les différentes maisons gardent leur identité.
Vous savez, c'est jamais évident d'être l'actionnaire d'une maison aussi farouche que Le Seuil. Il a été un interlocuteur à la fois présent, déterminé, et respectueux tout de même de ce que représentait le seuil, c'est-à-dire une logique d'édition qui ne ressemblait pas à l'édition qu'il pratiquait lui-même.
Dernière étape, en 2017, La Martinière fusionne avec le groupe Média Participation, le leader européen de la bande dessinée, et l'ensemble, sous l'impulsion d'Hervé de La Martinière, devient le troisième groupe d'édition français derrière Hachette et Editis.
Merci Mathilde Cariou. Le temps demain avec une journée agitée, de la pluie, des orages le matin en Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, dans le centre de la France, sur les Alpes du Nord et le Berry. Ailleurs, ce sera du soleil. L'après-midi, les orages toucheront les deux tiers du pays, 7 à 16 degrés le matin, jusqu'à 25 l'après-midi.